reviens un instant pour bien vous faire comprendre ce que je disais tout à l'heure. Voyez, quand on regarde la question sur la simplicité, Dieu est-il corporel? C'est-à-dire offre une composition de parties quantitatives. Donc négation des parties quantitatives. Y a-t-il en lui composition de forme et de matière? Y a-t-il composition de nature ou essence et du sujet de l'individu? Y a-t-il composition de l'essence et de l'exister? Y a-t-il composition du genre et de la différence? Y a-t-il composition du sujet et de l'accident? Est-il composé de quelque manière ou absolument simple? Entre lui-même, oui, entre-t-il lui-même en composition avec les autres êtres? Il est tellement simple qu'il ne peut pas faire partie d'autres. Et c'est une conséquence, oui. Donc tout est résumé dans, dans l'article 7. Est-il composé de quelque autre manière ou absolument simple? Vous avez nié toutes les compositions. Dans l'ordre physique, dans l'ordre métaphysique, dans l'ordre de théologie, de jugement de sagesse, tout est nié pour affirmer ensuite omnino simplex. Je crois qu'on passe de la négation, per modum, négationnisme, per modum, éminatio. Alors, continuons. Oui. Ah! Oh, très bien, humblement, mon père, si j'ai à peu près bien compris, vous avez dit que si on ne voit plus le passage du modum negationis au modum eminentiae, on ne peut plus faire d'analogie en théologie scientifique. Est-ce que vous pourriez reprendre? Oui, je comprends. C'était bref comme tournant. Bon, c'est pour vous pointer que je fais ça de temps en temps. Ça réagit bien, c'est bien. Oui. Comprenez les rationes. Prenez la raison de bien. Je la découvre en philosophie. C'est pas la révélation qui me dit ce que c'est que le bien. Dieu est bon. Dieu seul est bon. Qu'est-ce que c'est que la bonté? L'Esprit Saint nous dit, mais fais des expériences. Oh, comme ce fruit est bon. Oh, comme ce frère est merveilleusement bon. Ça ne veut pas dire qu'il est juteux, mais ça dit. Tandis que le fruit, il est bon, c'est un peu juteux, s'il est sec comme une... Ça va bien, ça va pas. Comme ce chien est bon, comme ce cheval est bon, ainsi de suite. La bonté prend des significations différentes selon l'animal, selon l'homme, selon l'ange, selon Dieu. Vous avez donc une notion analogique, une unité dans la diversité. Et une diversité qui implique allô, allô, autre, autre. La bonté de l'homme et la bonté de Dieu sont totalement différentes. Vous voyez bien les diverses. Or, ceci présuppose que vous connaissez quand même quelque chose de la bonté de Dieu, en connaissant la ratio du bon. Si vous dites que tout se termine par la pure négation, on ne voit plus du tout ce que c'est que l'analogie. La négation est toujours en vue d'une purification. Elle n'est pas une finalité. est une vérité dans les philosophies qui veulent que la négation soit absolue, soit l'absolu. Autrement, elle ne l'est pas. Donc, si vous terminez par la négation, votre raison analogique n'est plus présente. Tandis qu'au contraire, si vous écartez les modes limités, vous revenez sur votre notion analogique pour montrer son mode éminent. Que vous ne saisissez pas parfaitement. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Alors, on aimait le mot déité est apparu. Ou 11-19. C'est 11-19, je présume. C'est quoi? On me le verra. Hein. Le mot déité existe en saint Thomas. Hein. Et saint Thomas montre que déité et Dieu, c'est la même chose. En Dieu, l'abstrait et le concret sont identiques. Ils sont différents quant à notre mode de connaître. Et c'est la même signification. Et c'est la même chose pour les transcendentaux. C'est vrai. La bonté. La vérité. L'unité. Tandis que tout ce qui n'est pas transcendantal, il y a une différence entre l'abstrait et le concret. Quand vous dites homme et humanité, c'est pas la même chose. Bon, je continue. Sur le mystère de la très sainte Trinité. En théologie mystique, le mystère de la très sainte Trinité enveloppe toute la théologie mystique. Retour vers le Père. Et le Père est un avec le Fils et un avec l'Esprit Saint. Et en théologie scientifique, le traité sur la très sainte Trinité dans saint Thomas est super scientifique. Puisque, de fait, mon intelligence ne dit rien ni sur l'existé de la très sainte Trinité, ni sur le mystère de la très sainte Trinité. Et on fait une théologie scientifique du mystère de la très sainte Trinité. C'est de quoi se tirer les cheveux. C'est extraordinaire. Je trouve ça invraisemblable. Il faut comprendre ce qu'il y a de si extraordinaire d'avoir l'audace de dire théologie scientifique du mystère de la très sainte Trinité. Et c'est vrai, saint Thomas veut une rigueur scientifique dans son mystère de la très sainte Trinité. Le mystère de Dieu, je comprends, puisque de fait, mon intelligence humaine peut l'atteindre. Alors la nécessité en Dieu, et tous les attributs qu'on fait en Dieu, si c'est nécessaire. Je comprends très bien que la simplicité me donne conclusion. Mais quelle est la conclusion scientifique du mystère de la très sainte Trinité ? Si vous ne saisissez pas ça, vous n'avez pas saisi que c'était une théologie scientifique. Vous voyez ce que je pose comme question? Une connaissance scientifique implique une certaine intelligibilité. Or, l'existé de la très sainte Trinité, vous ne pouvez pas l'affirmer philosophiquement, et ce qu'est l'une des personnes divines non plus. Donc, vous devez dire qu'on ne connaît rien scientifiquement du mystère de la Très Sainte Trinité. Saint-Thomas aurait dû avoir l'humilité de mettre en appendice, quand il s'agit du mystère de la Très Sainte Trinité, la théologie scientifique se tait, elle garde le silence. Il n'y a que la mystique. Des quantités disent ça, c'est pour ça que je le dis. Et apparemment, ils ont raison. Alors, il faut comprendre que pour saint Thomas, la science, la théologie scientifique, en tant que subalternée à la vision béatifique. Or, la vision béatifique me fait découvrir Dieu en tant qu'il est trois dans sa Trinité. Si la foi et la contemplation me permet d'entrer dans ce mystère de la Très Sainte Trinité, je peux dire qu'il est super intelligible. Plus j'entre dans le mystère de Dieu, plus c'est grand. Et la Très Sainte Trinité a une intelligence qui dépasse tout. Puisque c'est Dieu lui-même. Et que moi, je ne saisis que dans une imperfection extrêmement grande. Puis, le permodum causalitatis disparaît, donc. Et alors c'est ça que saint Thomas a découvert. Et je dis bien que c'est une découverte de saint Thomas, qui existait déjà chez les pères de l'Église. Mais saint Thomas l'a mis en pleine lumière. Saint Thomas commence le traité de la Très Sainte Trinité par le point de vue de la procession. Il y a une procession en Dieu. Je procède du Père. On est au niveau de la vie. Dieu est absolument simple. C'est au niveau substance. Donc au niveau être. Au niveau de la vie, il peut y avoir une procession, elle est révélée, de la vie divine. Donc, je vais montrer, en théologie scientifique de la Très Sainte Trinité, qu'il n'y a aucune contradiction à ce qui est affirmé dans l'Écriture. Par là, je vais découvrir un aspect négatif, scientifique, de rejeter toutes les erreurs et de montrer que ce qui est révélé est éminemment sage. Mais je n'entre pas dans le mystère scientifique. Mais je montre que tout ce qu'on dit contre ne tient pas et que le seul fil conducteur, c'est ce mystère de la procession. C'est assez beau et assez audacieux. Autrement dit, tout l'aspect scientifique du traité de la Très Sainte Trinité, je crois qu'on peut le dire, se fonde sur l'aspect scientifique. Dieu est tout à fait simple. en étant tout à fait simple, il peut avoir trois personnes divines. De fait, il y a trois personnes divines. Oui. Je crois qu'est impliqué ce point de vue de la possibilité pour mieux manifester l'aspect scientifique. Et ceci, c'est très net quand on comprend comment saint Thomas commence le mystère de la très sainte Trinité. Il y a des processions en Dieu. Il y a des émanations. Pourquoi peut-il y avoir une évasion de la possibilité de procession en Dieu, de la possibilité de l'émanation en Dieu? C'est presque un côté critique, vous voyez, négatif et critique. C'est possible qu'il y ait une émanation en Dieu, il n'y a aucune impossibilité. Or, il y en a une. Établir que c'est possible, c'est scientifique. Il y a un aspect un peu mathématique, très curieux. Pourquoi c'est possible? Parce que la procession comme telle n'implique aucune imperfection. Elle ne supprime pas la simplicité. Parce que le fruit de cette procession peut demeurer en Dieu. Il n'est pas autre que Dieu. Il est Dieu. Donc, voyez, saint Thomas montre par là que la révélation, je procède du Père, ego prochesi, j'ai procédé du Père, je procède du Père. Une telle affirmation montre qu'en Dieu, la procession vitale du Verbe, non seulement est possible, mais qu'elle est. Et je peux analyser ce qu'est la procession pour montrer que la procession comme telle n'implique aucune limite, aucune possibilité d'aller contre la simplicité de Dieu. La simplicité peut exister absolument, parfaitement, une procession. Là, il y a quelque chose de scientifique. Parce que je lis procession et simplicité. Et je sais que par la foi, ils existent. Et la procession n'est pas une propriété de la simplicité. C'est un fait.
Mais vous dites que saint Thomas montre non seulement que la procession est possible, mais aussi qu'elle existe.
Elle existe par la foi.
Ça, c'est par sa foi.
Oui, c'est évident. L'aspect scientifique joue là-dessus. Oui. Je supprime tout. Il n'y a pas d'impossibilité. Parce que je ne sais pas ce qu'est la procession en Dieu. Mais je montre qu'étant donné qu'il est infini, il n'y a aucune impossibilité que la procession existe. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire que le caractère scientifique du traité sur la très sainte Trinité n'est scientifique qu'en s'appuyant sur la simplicité. Oui. Mais c'est par la procession qu'on va introduire ce regard logique de mettre au service de la parole de Dieu mon intelligence. En essayant de comprendre qu'il y a deux types de processions, des processions ad extra et des processions ad intra. Des processions ad extra, c'est l'œuvre artistique, c'est la création. Des processions ad intra, c'est tout l'aspect du bonheur de Dieu. C'est l'aspect de sa vie. Dieu n'est pas nécessairement quelqu'un qui doit sortir de lui pour se perfectionner, oui. Il peut avoir en lui-même une perfection infinie qui implique une fécondité. Alors remarquez bien que l'Écriture parle de fécondité et que saint Thomas n'en parle pas. Et des théologiens tout proches de saint Thomas en parlent. Pourquoi saint Thomas ne parle-t-il pas de fécondité alors que le terme existe dans l'Écriture? Parce que c'est moins rigoureux que procession, scientifiquement parlant. Donc, j'espère que vous voyez un peu comment il peut y avoir dans cette double négation par rapport à l'existence, par rapport à la connaissance que j'ai de la très sainte Trinité, comment il peut y avoir un nouveau regard sur Dieu. Et c'est un nouveau regard sur Dieu. Ce n'est pas Dieu qui ses subsistances. Ce n'est pas Dieu qui subsiste en lui-même. C'est donc par le point de vue de la vie qu'on veut pénétrer dans le mystère de la très sainte Trinité. Vous comprenez tout de suite pourquoi. Parce qu'au niveau de l'être, c'est la simplicité. Donc la porte est fermée. Au niveau de la vie, la voie n'est pas fermée. Il peut y avoir procession sans aucune limite. Et il y a procession. Et saint Thomas fera la même chose par rapport au mystère de l'Esprit Saint, rappelant que la distinction en Dieu, étant donné sa simplicité, ne peut exister qu'à partir d'une procession. Une personne se distingue d'une autre personne uniquement par procession.
Est-ce que saint Thomas, pour pouvoir parler de procession, doit déjà le découvrir en philosophie? Ou d'où est-ce que saint Thomas sort la procession?
Oh, philosophie! Philosophie du vivant, l'opération. La procession, c'est une opération. Or, il voit que l'opération est ou transitive ou immanente. Un fruit, là, on ne produit pas. Vous voyez ? Donc, il faut bien comprendre que c'est vraiment à partir même de la révélation et dans la révélation que saint Thomas essaie d'élaborer le mystère de la très sainte Trinité. Quand saint Thomas nous montre qu'il y a une seconde procession, je crois que là, nous l'aspect extrême de la théologie scientifique de saint Thomas. C'est assez extraordinaire de montrer que s'il y a trois personnes en Dieu, que le Père et le Fils sont liés par des liens de génération, le troisième lien, le lien qui peut exister entre la troisième personne et les deux autres personnes implique nécessairement que ces deux personnes soient source de l'Esprit Saint. raisonnement de saint Thomas. C'est très fort. Oui, là, on est vraiment en théologie scientifique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je reprends. D'une autre façon, moins raide. Ce qu'il faut, c'est un raisonnement très raide. Hein. On est en théologie scientifique. Donc on est devant des catoutous. Les catoutous, vous savez ce que c'est. Hein. C'est la distinction nette de ce que représente la connaissance scientifique. C'est-à-dire découvrir les liens de percée. Les liens de nécessité. Établir qu'il y a des liens de nécessité. Point de vue de l'intelligence. Autrement, il n'y a pas de science. Une nécessité qui présuppose la révélation. Il y a trois personnes. Voilà ce que me dit la révélation. La révélation me dit qu'il y a deux personnes, puis une troisième. Alors, comment trouver ce lien de nécessité? Je le trouve négativement. En dehors des oppositions relatives, la simplicité prend tout. Or, il ne peut exister d'opposition, de distinction relative que s'il y a un fondement. Et le fondement, c'est la procession. On trouvera cette invention assez curieuse au point de vue théologique de dire qu'il y a procession selon l'intelligence et il y a procession selon l'amour. Selon la volonté. Mais comme c'est curieux, hein, comme analogie, c'est l'ordre qui existe entre intelligence et volonté dans un esprit. Et en Dieu, puisqu'il est esprit, il peut y avoir procession selon l'intelligence, procession selon selon la volonté. Et cette seconde procession, selon la volonté, implique que le Père et le Fils soient un dans cette procession pour que l'Esprit Saint se distingue du Fils. Ouais. Très subtil comme argumentation. Mais c'est très beau. Alors on dira qu'il y a des notions, il y a des notions analitaires pour bien distinguer d'une façon très particulière, ce qu'est le raisonnement à l'intérieur de la foi. Je n'insiste pas plus, mais c'est important de voir que le point de départ de tout le traité de la très sainte Trinité repose sur le point de vue de la recherche de la vie en Dieu. Et par là, je trouve un fondement à la distinction des personnes. Et la seconde partie regarde au contraire les relations entre les personnes. Alors là, je retrouve l'être. Forcément. La relation se fonde sur la réalité. Et donc, je retrouve la simplicité qui est donnée. Tout en précisant et tout en affirmant, si vous voulez, que il n'y a pas d'autre possibilité. Ce que les orthodoxes essaient de voir distinction entre le Fils et l'Esprit Saint, en faisant que le Fils soit un avec le Père pour être source de procession d'Esprit Saint. qu'on verrait en théologie, en la très sainte Trinité. Alors, ce qui est important encore à noter, c'est justement que la seconde partie donc, de ce traité, saint Thomas va le faire à partir de la relation. Donc, il y a deux piliers, pour tout le traité de la très sainte Trinité. L'opération vitale et la relation. Tout le traité de la très sainte Trinité repose là-dessus. Opération vitale pour sauver qu'il y a dans la simplicité quelque chose. Et pour sauver que ces opérations vitales vont être source de distinctions relatives. Alors on va introduire la notion de relation. Troisième traité, ayant montré que Dieu est simple, que Dieu est trine, saint Thomas va montrer le traité de la création. Après les deux, vous voyez, c'est ça qui est très beau aussi, scientifiquement. Scientifiquement, cet ordre que saint Thomas nous donne est très très grand, très beau. Dieu simple. Dieu. Dieu lui-même nous donne. Chercher l'intelligibilité la plus parfaite en Dieu, dans son unité, la découvrir dans le mystère des distinctions des trois personnes divines, puis ensuite la création. Pourquoi ? Parce que la création, elle est l'œuvre de Dieu un et de Dieu trine. Puisque Dieu est trine de toute éternité. Comprendre, et ce sera là la précision que va amener saint Thomas, la création qui est une opération ad extra, une émanation ad extra, une procession ad extra. Dieu pose, réalise quelque chose qui n'est pas lui. Alors que dans la procession ad intra, cette procession parfaitement immanente a un fruit qui n'est pas extérieur à Dieu. Donc, il est gardé dans la simplicité de Dieu. Tandis que quand il s'agit de la création, c'est quelque chose qui est en dehors de Dieu. Dieu pose quelque chose qui n'est pas Dieu. Et nous tombons dans la multiplicité. Nous quittons la simplicité, nous tombons dans la multiplicité. Le problème de la création, c'est le problème de l'apparition du multiple. C'est diamétralement opposé à la simplicité. Une créature comme créature ne peut pas être simple. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Puisque être simple, c'est le premier. Alors la créature dit relation à quelque chose d'autre. Elle ne peut pas être simple. Elle est multiple. Ce traité de la création Thomas va le regarder, donc dans la lumière de la simplicité de Dieu. Tout de suite. Dans la lumière de la simplicité de Dieu, saint Thomas peut tout de suite affirmer tout ce qui n'est pas Dieu et qui existe participe de l'exister. Seul Dieu existe par lui-même. Kadoto. Par lui-même. Tandis que la créature n'existe pas par elle-même. Elle est dépendante d'un autre. Si la créature n'existe pas par elle-même, elle ne peut exister qu'à partir de Dieu. Donc, entre la créature et Dieu, il y a un lien de causalité efficiente. Et c'est très calé, ça. Mais c'est admirable. Tout de suite, c'est à partir du point de vue de l'existé, qui existe en Dieu et qui existe en nous, que saint Thomas jette son fil à plomb. C'est donc par le point de vue de l'essai, de l'être, que tout le traité de la création peut s'élaborer. Et c'est ça que je voudrais que vous reteniez, parce que c'est là où on voit l'aspect génial de saint Thomas. Quand il s'agit de la simplicité, c'est l'essai. Quand il s'agit de la trinité, c'est opération vitale. Quand il s'agit de la création, l'essai. C'est par la métaphysique de l'essai, traduisez essai, ce par quoi au Créateur. Oui. C'est l'essai qui me permet d'essayer de participer. Qui me permet de comprendre, de saisir la continuité. Entre le Créateur et la créature. Vous voyez comme c'est assez raide, ces trois. La simplicité, l'essai, Dieu et l'ipsum, c'est subsistance. L'opération vitale, la très sainte Trinité. En réintroduisant après l'être. Et puis, le point de vue de laisser participer la création. C'est pour ça que saint Thomas pourra préciser en théologie scientifique, que la raison de la création, ratio formalis creationis, est fait participer. Bon, là, je vous donne tout de suite le point de vue scientifique de saint Thomas. Mais nous pourrions faire exactement la même chose que pour les autres. Traiter la création dans la Bible. Première affirmation. Et progressivement, il sera dit que Dieu crée à partir de rien. Ex nihilo. Mais comprenez bien que Dieu prend comme analogie l'analogie du potier et l'analogie du chirurgien. Dieu ne prend pas comme analogie pour comprendre, pour nous exposer, pour nous révéler la création, le point de vue de la seule connaissance. Il emploie que la lumière soit et la lumière s'agit de la création du corps de l'homme, il fait le geste du potier. Et la création de la femme, le geste du chirurgien. Alors pourquoi ces trois analogies? Il y a très bien toute l'écriture, la création est toujours affirmée, et le geste du potier est toujours affirmé. Il a façonné l'univers. La création est reprise dans le Nouveau Testament avec le prologue de Saint Jean. Il est seul. Théologie mystique, le problème de la création est traité dans le mystère de l'adoration. Et on peut dire comme une exigence de respect de l'homme à l'égard de Dieu. L'observation du sabbat, le shabbat, l'adoration. Alors, en théologie scientifique, on reprend l'analogie de l'essai et on essaie d'expliciter le mystère de la création par les analogies de l'art et la procréation, puisque Dieu communique la vie. Et ça, il faut être un peu farouche là-dessus. La science ne peut rien nous dire de l'acte créateur de Dieu. On ne peut pas expliquer la création par la science. L'art est plus proche de la création que la science. Est une opération ad extra, comme l'art. Donc l'analogie joue du côté artistique. Alors que la science est une connaissance ad intra, spéculative. Alors c'est là où il faut remonter tout un courant énorme qui a été créé par l'évolution, par le point de vue de l'évolution. Il ne faut surtout pas chercher des analogies scientifiques pour expliquer la création. Mais il faut chercher des analogies artistiques. Puisqu'il s'agit d'une opération ad extra, et non pas d'une connaissance en premier lieu. Bien que Dieu crée par sagesse, bien que Dieu crée par amour, ce n'est ni la sagesse, ni l'amour qui explique la création. Expliquez, hein. Le motif de la création, c'est l'amour de Dieu. Et la manière dont il crée, c'est sa sagesse. Mais pour nous, puisque nous ne connaissons pas la sagesse de Dieu, pour que nous ne connaissons pas sa bonté, nous pouvons prendre des analogies de l'art. Ah, vous voyez, ça explique une quantité de choses que l'évolution ne peut absolument pas expliquer. Si évolution il y a. Les grands artistes se font la main, les croquis. C'est toujours très intéressant. Je me souviens d'une exposition à Amsterdam il y a quelques années, tout Rembrandt. J'avais eu l'occasion d'y aller. Elle a envoyé les croquis de Rembrandt. C'était presque plus intéressant que ces tableaux. Presque. Alors, l'analogie de l'art peut me faire comprendre comment Dieu se manifeste progressivement. Et l'homme en dernier lieu. pu aller très loin dans l'ordre animal, comme ressemblance à l'égard de l'homme. Non pas du tout parce que l'un a été source de l'autre, mais parce que tout simplement, Dieu veut mettre en pleine lumière la manière dont l'esprit transforme la matière.